Bonjour à tous.
L'actualité de ce dimanche, ce sont les Français qui, à partir de 14h, pourront se rendre à l'hôtel des Invalides à Paris, auprès de la dépouille de Jacques Chirac. Les autres titres, Laurence?
L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, le préfet tente de rassurer la population. Et puis football avec Mbappé, tout est plus simple. Le retour d'Mbappé a permis au PSG de gagner à Bordeaux et d'être seul en tête du championnat de France. Vos invités, Pierre.
À 8h20, Jérôme Jaffray, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, il sera avec nous. Question sur le parcours si singulier de Jacques Chirac. Il a suffi qu'il quitte l'Élysée en 2007 pour qu'il devienne la personnalité politique préférée des Français.
France Inter. Les Français ont donc rendez-vous aux Invalides aujourd'hui. L'hôtel des Invalides ouvrira ses portes à 14h pour permettre à tout un chacun de venir se recueillir sur le cercueil de Jacques Chirac, l'ancien président disparu jeudi à l'âge de 86 ans. L'hommage débute donc en début d'après-midi, je le disais, 14h. Il y aura sans doute beaucoup de monde. Mode d'emploi signé Manon Vautier-Chollet.
Pour accéder à la dépouille de Jacques Chirac, l'entrée du public se fera par le 129 rue de Grenelle, donc par le côté esplanade des Invalides. Les lieux seront ouverts dès 14h, mais sans horaire de fin, puisque ce sera en fonction de l'affluence. Il faudra traverser la cour et les coursifs pour aller se recueillir devant le cercueil de l'ancien président. Il sera posé au fond de la cour d'honneur des Invalides, à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis. Un hommage populaire voulu par la famille de Jacques Chirac qui devrait être présente dans l'après-midi. Un hommage sans cérémonie militaire. Des livres d'or seront aussi mis à disposition pour que ceux qui le souhaitent puissent laisser un mot.
Il est 7h02, Laurence Thomas, et la France se prépare à rendre demain, lundi, un hommage intense à Jacques Chirac.
Oui, une cérémonie réservée à la famille qui sera organisée à 9h30 avant des honneurs militaires dans la cour d'honneur des Invalides, donc toujours en présence du président Emmanuel Macron. Et puis à midi, l'hommage se déplacera à l'église Saint-Sulpice à Paris. Parmi les nombreuses personnalités étrangères attendues, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre Charles Michel ont annoncé leur présence, Vladimir Poutine également. Je veux dire que le président Chirac avait noué des relations particulières avec de nombreux dirigeants et ce fut le cas avec le président Bill Clinton, Nathalie Charbonnier.
Dans les années 90, les relations entre la France et les États-Unis étaient faites de tensions. Divergences sur la gouvernance de l'OTAN, frictions sur la politique agricole commune, sur Airbus ou encore fronde contre la relance des essais nucléaires français dans le Pacifique. Si bien que Bill Clinton, le président américain de l'époque, ne souhaitait pas recevoir Jacques Chirac. Si l'on en croit le journaliste Hubert Coudurier, leur première rencontre en 95 n'aurait dû durer que 20 minutes. Or, à l'arrivée, le courant passe immédiatement. Bilan, les deux hommes resteront ensemble 1h30. Une complicité qui se poursuivra l'année suivante à Lyon, lors d'une conférence de presse dans le cadre du G7. Bill Clinton ne pourra alors retenir un fou rire lors d'une prise de parole de Jacques Chirac.
Le président Clinton a indiqué qu'il était à gauche d'Attila. Alors je voudrais vous dire que je ne me suis pas senti visé.
That's right.
Quoi que puissent en penser certains journalistes français.
C'est bon, explique en riant Bill Clinton, mais cela ne s'arrête pas là. Complicité et soutien aussi. Dans ses mémoires, Jacques Chirac racontera avoir téléphoné plusieurs fois par semaine en 98 à Bill Clinton, au moment de l'affaire Monica Lewinsky, pour l'assurer de son soutien et pour l'encourager à tenir.
Nathalie Charbonnier, deux jours après le spectaculaire incendie de l'usine chimique de Lubrizol, le parquet de Rouen a élargi l'enquête à la mise en danger d'autrui et face à l'inquiétude sur l'impact sanitaire et environnemental du sinistre, le préfet a dévoilé des résultats d'analyse qu'il juge, je cite, « encourageant ». Grégoire Le Callot.
Sur son téléphone, entre deux photos de famille, Hélène montre la terrasse de sa maison à Mont-Saint-Aignan.
Il a plu et la terrasse est un peu incurvée et l'endroit où l'eau a stagné, c'est noir. Oui.
Le lourd panache a fait pleuvoir de la suie sur 12 communes du nord-est de Rouen qui ont été particulièrement touchées. Elles ont dû prendre des mesures de confinement. Dans cette zone où petit à petit la ville se transforme en campagne, la suie est retombée en traînée sale sur les voitures, les toits, dans les jardins et sur les cultures maraîchères. Katia sort d'un supermarché de producteurs locaux. Elle, qui fait des efforts pour consommer en circuit court, a dû prendre ses critères habituels à l'envers à cause des retombées de suie.
Avant, on faisait vraiment tout pour que ce soit local. Et là, compte tenu des circonstances aux alentours de Rouen, on fait attention.
Les carottes, par exemple, j'ai regardé d'où elles venaient.
Et vous avez pris d'où, finalement ?
Bah, de la Manche.
À ses côtés, François, les courses dans les bras. Les suies vont provoquer la perte des récoltes, dit-il.
On a des amis qui sont sur Quincampoix, pas très loin. Le jardin est noir. Il va acheter le paillis, il va acheter le plastique de la serre, il va acheter une partie de la production.
La La préfecture demande aux maraîchers, tout comme aux particuliers qui possèdent des potagers, de jeter les végétaux qui n'avaient pas été récoltés jeudi et ceux qui ont été exposés aux chutes de suie. Mais les agriculteurs et les jardiniers se demandent aussi dans quelle mesure les sols sont touchés.
Voilà, reportage de Grégoire Lecalot. Laurence Thomas, budget de la Sécu pour 2020, retour à la case déficit.
Il dépassera les 5 milliards d'euros cette année et l'année prochaine, alors qu'un retour à l'équilibre était initialement prévu pour cette fin 2019. C'est ce qui ressort des chiffres quasi définitifs du projet de budget 2020 que le gouvernement doit dévoiler lundi matin. En cause notamment les mesures prises par le gouvernement pour répondre à la mobilisation des Gilets jaunes. La convention de la droite voulue par Marion Maréchal s'est transformée hier à Paris en une convention de l'extrême droite où les intervenants, dont Éric Zemmour, ont prôné la théorie du grand remplacement, s'inquiétant des immigrés, je cite, colonisateurs. Dans la salle, en dépit de très nombreuses invitations, il n'y avait qu'une poignée d'élus LR et RN. Et autour, un public qui presse Marion Maréchal à sortir de l'ambiguïté. Mais l'ancienne députée FN du Vaucluse ne paraît pas décidée. Maxence Lambrec.
Marion Maréchal a dû regretter d'inviter son ami, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui lui a mis un joli coup de pression.
J'en ai assez des excuses des uns et des autres pour pas se présenter à la prochaine présidentielle. Trop jeune, trop intello, trop je sais pas quoi, je m'en fous. Maintenant, j'ai besoin, nous avons besoin d'un visage qui incarne ce qu'on va dire là.
Sa réponse est assez claire, même si elle fait mine de présenter un projet en 5 défis, le premier étant le grand remplacement de la population. L'ancienne députée temporise encore.
L'homme et la femme providentielle, c'est chacun et c'est chacune d'entre vous. J'entends les impatiences, mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier.
Des barrières partisanes toujours solides. Sur scène, seulement un député RN et un député LR. Et à la sortie, pas mal de déçus.
Quand il y a le feu à la maison, comme dirait le président Chirac, tiens, bah, on ne parle pas de la couleur des papiers peints.
J'aurais attendu qu'elle sorte du bois un peu plus clairement.
On ne devient pas présidentiable 3 mois avant.
Et ça, c'est un peu le risque de Marion Maréchal Le Pen. On ne peut pas tous se mettre derrière elle dans l'attente qu'elle se décide ou non à y aller.
À force d'entretenir la flamme sans allumer de grand feu, la bougie s'amenuise et Marine Le Pen a bien envie de la souffler.
Maxence Lambrec, et je vous invite à retrouver le podcast Poursuite, un 3e épisode de ce podcast consacré aux digues entre la droite et l'extrême droite, des digues qui sont en train de céder. De nouveaux rassemblements prévus ce dimanche à Hong Kong à l'occasion de la journée mondiale contre le totalitarisme après une nuit d'affrontements entre manifestants et police. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pacifiquement dans un parc pour les 5 ans du mouvement des parapluies qui avait paralysé le territoire en 2014. Au mondiaux d'athlétisme à Doha au Qatar, le français Johan Diniz, tenant du titre du 50 km marche, a abandonné, épuisé par les conditions climatiques, 31 degrés, 75% d'humidité. Car à l'âge de 41 ans, Diniz a rendu les armes au bout d'1h20 de course, après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres dans la chaleur étouffante de Doha. Une compétition remportée par le japonais Suzuki. Et puis, Christian Coleman, c'est le nouveau roi du sprint qu'il a couru, donc le 100 mètres, hein, en 9 secondes 76 centièmes. L'Américain reprend le flambeau laissé par Usain Bolt, parti à la retraite, un premier titre planétaire. Autre sensation de la soirée, le Jamaïcain Tajai Gale s'est imposé à la longueur ou sur longueur en explosant son record personnel, passé de 8,32 à 8,69 m. Le football, 8e journée de Ligue 1. Lyon s'enfonce dans la crise. Le PSG se relance après son échec à domicile face à Reims. Le PSG s'est imposé à Bordeaux 1-0. Kylian Mbappé, entré en jeu en deuxième période, a offert une passe décisive à Neymar, qui a de nouveau marqué le but de la victoire pour les Parisiens. On écoute Kylian Mbappé.
Ça fait du bien. 5 semaines, c'était quand même long. Mais là, voilà, c'est le début du retour. Parce qu'on n'est pas complètement revenu. Il s'agit de pas rechuter, donc c'est bien. Il aurait pu avoir des buts, mais il y a eu une passe pour Ney. Voilà, on a toujours eu, comme j'ai dit, une relation basée sur l'honnêteté et l'admiration. Il n'y a pas de filtre entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, regardez dans le vestiaire, il m'a dit. Je pense que c'est ce qui fait le charme de notre relation.
Et ce qui fait le charme de ce 6-9, c'est Pierre Veil.
Oh là là. Écoutez, c'est trop. C'était le journal de Laurence Thomas, Les couleurs du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski de Météo France est avec nous. Jean-Michel, le temps est perturbé dans le quart nord-ouest.
Ah, tout à fait Pierre, une ambiance pluvieuse et venteuse ce matin du nord de la Loire à la frontière belge et puis en cours de journée ce temps perturbé va gagner vers le Poitou-Charentes, le centre et le nord de la Lorraine. Le tout s'accompagnant d'un vent de secteur sud-ouest turbulent vers 70 km à l'heure dans l'intérieur mais 90 à 100 en bord de mer, en particulier des côtes normandes au Cap Griné. Et puis on notera que le littoral du Pas-de-Calais est en vigilance orange en raison du risque de submersion marine des zones les plus vulnérables à l'heure de la pleine mer, c'est-à-dire vers le milieu de la journée. Dans la moitié sud et dans l'est, là, temps plus calme et ensoleillé, malgré un voile nuageux plus dense en fin d'après-midi vers la Gironde, le massif central et la frontière allemande. Les températures d'un très bon niveau vont évoluer entre 18 et 28 degrés cet après-midi du nord à la Méditerranée, avec des pointes vers 31 près de la Garonne.